Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Le pape a lancé mardi 30 mai le pacte mondial de la famille, le Family Global Compact, un pacte visant à faire dialoguer la pastorale familiale avec les centres d'études et de recherche sur la famille. Il s'agit de soutenir ce qui est l'espérance de la société, a fait savoir François. Le pape qui, pour le mois de juin, invite à prier pour l'abolition de la torture. Des nouvelles de l'église Famille de Dieu en Afrique, au Tchad, dans un message rendu public lundi 29 mai, les évêques catholiques ont exprimé leur inquiétude face à la situation globale du pays et ont interpellé le président de la transition, le général Mahamat Déby-Itno. En République démocratique du Congo, il sera également question d'un message, le message des évêques de la province du Sud Kivu. Au terme de leur assemblée épiscopale provinciale à Bukavu, dimanche à la cathédrale Notre-Dame de la Paix, les six évêques de cette province ont dénoncé dans leur message les guerres et les violences de toutes sortes que subissent leur population depuis plus d'une décennie. Dans l'actualité sociopolitique africaine, nous serons en Afrique du Sud, en Libye, au Sénégal, entre autres. Dans la deuxième partie de cette édition, nous parlerons du mois de mai consacré à la Vierge Marie et nous serons au sanctuaire Notre-Dame d'Aribo dans le diocèse de Dassazoumé, au Bénin, où plusieurs pèlerinages ont été organisés en honneur de la Vierge Marie. Et nous terminerons cette édition par la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
La famille a besoin d'être soutenue, car elle est l'espérance de la société, affirme François. Le Saint-Père lance pour cela un pacte mondial de la famille. Il le présente dans un message paru mardi 30 mai. Le premier objectif est d'abord de favoriser la synergie à l'intérieur de l'Église. Adélaïde Patrignani.
Des synergies entre d'un côté la pastorale familiale dans les églises locales et de l'autre les centres d'études et de recherche sur la famille dans les universités catholiques. Ce pacte devrait aussi faire émerger des propositions utiles aux politiques publiques à traduire concrètement auprès des familles. Car la formation sereine d'une famille, constate François, est difficile en l'absence de soutiens adéquats de la part de la société. Ce pacte propose donc d'y remédier. Il est l'initiative du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, et de l'Académie pontificale des sciences sociales. Il s'inscrit dans le siège d'Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique sur la famille, publiée en 2016. Dans son message, le pape observe aussi que de nombreux jeunes déclinent le choix du mariage au profit de formes de relations affectives plus instables et informelles. Mais en même temps, la famille reste la source prioritaire de la vie sociale. La plupart des rêves de Dieu sur la communauté humaine se réalisent dans la famille, ajoute François. Celle-ci est génératrice de biens communs, alliance irremplaçable et indissoluble entre l'homme et la femme. Le Saint-Père invite donc à ne pas se résigner à son déclin au nom de l'incertitude, de l'individualisme et du consumérisme, à ne pas être indifférent à son avenir. Il est essentiel, conclut-il, de remettre la famille au cœur de notre engagement pastoral et social.
Mettons fin à l'horreur de la torture. C'est l'intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin. Dans cette intention de prière, le pape François lance un vibrant appel à la communauté internationale. Il est essentiel de placer la dignité de la personne au-dessus de tout, a déclaré François. Le pape dénonce non seulement les formes de torture les plus violentes, mais également d'autres qui sont plus sophistiquées contre les traitements dégradants, l'annulation des sens ou les détentions massives dans des conditions inhumaines. Horrifié par le fait que la torture soit toujours une pratique courante, le pape fait appel à la communauté internationale afin qu'elle s'engage concrètement dans l'abolition de la torture et assure le soutien aux victimes ainsi qu'à leurs familles. L'actualité de l'Église en Afrique à présent. Dans un mémorandum publié lundi 29 mai, la conférence des évêques du Tchad interpelle le président de la transition sur l'insécurité grandissante, la pénurie de biens essentiels dans le pays et la composition de la commission nationale en charge d'organiser le référendum constitutionnel. Plus de détails avec notre correspondant Séverin Dingatonoum.
Dans ce communiqué de presse, les évêques du Tchad disent que les propos du chef de l'État sur la maîtrise de la situation par les forces de défense et de sécurité semblent du déjà entendu. Car les rapports indépendants des missions de la conférence des évêques du Tchad et de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad dans la zone de trouble ne sont pas de nature à rassurer. Malgré la cruauté des meurtriers et leur nouveau mode opératoire sans précédent, les prélats s'étonnent de comportements et expressions de certains autorités. Entre autres, le retard de communication du ministre de l'administration du territoire et le ton laconique et sans compassion quelconque. Les prélats s'étonnent aussi du fait que les forces de défense et de sécurité tchadiennes, réputées sous d'autres cieux, sont incapables d'éviter et d'arrêter la spirale de violence sur leur propre terroir. À peine sortis de l'audience, poursuivent-ils, nous avons appris que d'autres villages sont touchés et maintenant c'est la province de Mandoul. Par ce communiqué de presse, les évêques du Tchad rendent public le second mémorandum de l'année qu'ils ont soumis à l'attention du chef de l'État et qu'ils espèrent que ce dernier ne subira pas le même sort que le premier. Ils disent avoir évoqué aussi lors de cette audience le sort des prêtres ou pasteurs qui ont été violentés, d'autres tués. Pour finir, les prélats demandent un plus grand respect pour ceux qui veillent au nom de Dieu sur le pays et ses habitants par la prière et l'Eucharistie. Les provoquer, c'est provoquer Dieu et s'exposer inutilement à la colère et à la malédiction divine. Séverin Dingatolum pour Radio Vatican.
Direction République démocratique du Congo. Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, a présidé dimanche 28 mai, dimanche de Pentecôte, la messe pour la clôture de la session de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu en la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Cette messe de clôture qui a réuni les évêques des six diocèses de Bukavu, Uvira, Katsongo, Kindu, Goma et Butembo-Beni a été sanctionné par un message lu par le secrétaire de l'Assemblée épiscopale provinciale, l'abbé Jean-Marie Vianney Kitumaini. Les évêques y dénoncent les guerres et les violences de toutes sortes que subissent leur population depuis plus d'une décennie. Jean-Baptiste Malingué.
J'élève les yeux vers les montagnes, d'où le secours. Mais viendra-t-il ?
Les évêques relèvent dès le préambule que les populations de leurs six diocèses sont tourmentées depuis plus de trois décennies par les guerres et les violences de toutes sortes. Les évêques se félicitent des situations heureuses, notamment la ratification de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, l'enclenchement du processus électoral, la visite du Saint-Père François dans le pays. Mais les évêques soulignent aussi la situation d'insécurité dramatique persistante et la forte militarisation, la misère économique, les catastrophes naturelles graves. Les évêques du Grand Kivu formulent des recommandations aux fidèles catholiques en particulier. Les évêques demandent de garder l'espérance, confiant que notre secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Jean-Baptiste Malingué Kalunzu pour Radio Vatican.
Parcourons à présent les pages consacrées à l'actualité sociopolitique africaine. Près de trois meurtres ont été commis toutes les heures au cours du premier trimestre de l'année en Afrique du Sud, où la criminalité record est toujours plus intense selon les statistiques officielles de la police publiées mardi. Tous les trois mois, dans ce pays d'Afrique australe, le ministre de la police, Bekisele, dresse au cours d'une conférence de presse retransmise en direct à la télévision le triste tableau de l'insécurité. Entre janvier et mars, les meurtres ont augmenté de 3,4% par rapport à la même période l'année dernière, avec 6289 cas recensés. Les attaques de transport de fonds ont par ailleurs augmenté de plus de 20% et les vols dans les résidences de près de 6%. Le gouvernement libyen basé à Tripoli a annoncé mardi la poursuite d'une opération contre les réseaux de trafic dans l'ouest du pays, malgré les critiques qu'elle suscite. L'opération sécuritaire se poursuivra jusqu'à la réalisation de ses objectifs, a affirmé dans un communiqué le ministère de la Défense relevant du gouvernement de Tripoli reconnu par l'ONU. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a appelé ses compatriotes à se lever comme un seul homme contre le pouvoir à l'approche d'un verdict capital contre lui dans une affaire de viol qui subjugue l'opinion en vue de la présidentielle et sème à nouveau la violence à Dakar. Monsieur Sonko, qui s'est exprimé dans la nuit de lundi à mardi, s'est dit séquestré chez lui par les forces de sécurité après avoir été interpellé dimanche et ramené dans la capitale. Les jeunes le soutenant ont manifesté leur colère en attaquant les maisons de collaborateurs du président, en incendiant des véhicules et des bus et détruit du matériel urbain. Les forces de sécurité ont riposté en tirant en abondance des gaz lacrymogènes. La Banque mondiale va financer des projets de développement au Burkina Faso à hauteur de 421 millions d'euros pour améliorer l'entrepreneuriat, la production de bétail et la fourniture de services de base dans plusieurs régions selon le ministère de l'Économie mardi. Lundi, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nakanabo, et la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mboy, femme, ont signé trois accords de prêt d'un montant global de 276 millions de francs CFA pour la mise en œuvre d'un programme et de deux projets de développement. Les combats continuaient mardi au Soudan, où la trêve a été prolongée pour tenter d'acheminer une aide humanitaire vitale pour le pays au bord de la famine. Les médiateurs saoudiens et américains se sont félicités lundi de cette prolongation. Des habitants de Khartoum ont rapporté des combats dans la banlieue nord et des tirs d'artillerie dans le sud de la capitale de plus de 5 millions d'habitants. Le mois de mai, mois consacré à la Vierge Marie sur UFM, le mercredi 31. Au Bénin, au cours du mois de mai, ce sont plusieurs pèlerinages qui ont été organisés en l'honneur de la Vierge Marie, occasion pour les fidèles de communier dans la fraternité. C'est ce que nous explique le père Fortuné Badou, aumônier du sanctuaire marial à Notre-Dame d'Aribo, dans le diocèse de Dassazoumé.
Ici, au sanctuaire marial, nous avons organisé des prières tout au long de ce mois de mai de Marie, puisque c'est un sanctuaire marial. Tous les soirs, nous avons le chapelet avec la litanie de la Vierge Marie, en communauté avec les fidèles qui viennent de la ville pour pouvoir honorer la Vierge Marie ici à Dassa, particulièrement à Aribo. La joie pascale nous anime avec Marie, qui est présente au Cénacle avec les apôtres, à célébrer la Pentecôte. Dans l'esprit de la Pentecôte, l'Église nous permet de clôturer ce mois de Marie avec la fête de Notre-Dame de la Visitation. Ce jour, c'est mercredi 31 mai, c'est un jour ouvrable. Et nous avons deux messes ici pour célébrer cette fête. D'abord le matin, à 6h45 au sanctuaire même, à 13h au pied de la Vierge Marie à la grotte, et puis à partir de 18h, nous aurons bien sûr les vêtres, et ensuite le chapelet en procession avec la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo. Et dans les champs, nous allons prier le chapelet, et à la fin, nous allons animer un peu, chanter les louanges de la Vierge Marie, et avec la litanie de la Vierge Marie, pour clôturer ce mois de mai. Alors les fidèles de la ville de Dassa sont informés. Et puis nous avons un groupe de prière ici, Notre-Dame de la foi en église, qui prie aussi tous les jours de ce mois de mai à partir de 19h30. Ils se rassemblent tous les soirs pour prier et nous allons nous associer à eux pour clôturer ce mois de Marie le mercredi prochain, 31 mai. Donc, ils sont tous informés et nombreux. Nous allons célébrer ensemble, en tant que fils et filles de la Vierge Marie, cette visitation avec elle, à sa cousine Elisabeth, comme l'Église, notre mère, nous le recommande.
Le mois de mai se termine avec le vœu que Marie accompagne l'Église sur le chemin synodal. Comment vivez-vous cela au sein du sanctuaire d'Aribo?
Nous sommes au temps de synode, donc communion fraternelle les uns avec les autres pour manifester notre appartenance au Christ. Ça, c'est fondamental pour nous. Et Marie est au cœur de cette synodalité. Elle est au cœur de l'Église. Elle est avec nous comme au Cénacle. Et nous en sommes conscients. Et c'est pour cela que nous nous mobilisons, nous sommes reconnaissants et nous venons à cette pied ici à Dassa, au sanctuaire, pour lui dire merci chanter les merveilles de Dieu avec elle et puis pour lui demander de veiller, d'intercéder sur nous et pour nous.
Le père a Fortuné Babou, aumônier du sanctuaire marial à Notre-Dame d'Aribo, dans un entretien réalisé par Marie-Josée Mouando-Boboalo. Terminons par la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde avec Pierre Adalin d'Omerson.
Ouvrons notre rubrique en nous rendant tout d'abord au Nicaragua. Cette semaine, trois autres prêtres ont été arrêtés pour être interrogés par les autorités gouvernementales, tandis que le gel des comptes bancaires de diverses diocèses a été décrété sous des accusations de blanchiment d'argent. Le 24 mai, une chapelle a également été profanée par un groupe d'inconnus qui ont retiré les hosties consacrées au tabernacle pour ensuite les abandonner dans une propriété voisine. Vous pouvez profaner nos temples, détruire nos images, mais notre foi reste inébranlable en Jésus-Christ, ont répondu les fidèles. En Inde, Seva Kendra, le bras social de l'archidiocèse de Calcutta, a organisé une session de formation pour des femmes issues des villages du Bengale occidental à l'est du pays. L'objectif était précis, redonner à ces femmes leur dignité au sein de la société, promouvoir leur capacité entrepreneuriale et développer leurs compétences. En effet, plusieurs d'entre elles ont créé de petites entreprises artisanales qui ont permis l'amélioration de leur statut socio-économique, facilitant ainsi l'envoi de leurs enfants à l'école et la poursuite de leurs études. Nous restons en Asie, où l'église sud-coréenne se prépare à célébrer les 70 ans de l'armistice. Une grande neuvaine de prières aura lieu dans le pays du 17 au 25 juin pour marquer la fin des affrontements armés qui se sont déroulés de 1950 à 1953 et demander la paix et la réconciliation de la péninsule coréenne. Cette neuvaine solennelle de prière, organisée par le Comité de réconciliation nationale de la Conférence épiscopale sud-coréenne, sera l'occasion pour les catholiques sud-coréens de demander à Dieu la réconciliation et l'unité nationale. Le dernier jour, une messe spéciale pour la paix sera célébrée dans chaque paroisse du pays. Des représentants d'églises chrétiennes, d'autres confessions, ont également été invités à se joindre à la prière pour la paix. Ce conflit, en pleine guerre froide, a fait quelque 3 millions de morts, de blessés et de disparus, dont la moitié étaient des civils. En France, le mouvement Laudato Si a organisé à l'occasion du 8e anniversaire de l'encyclique un webinaire ce mardi 23 mai. Des intervenants de France et d'Afrique ont échangé sur le chantier d'oléoduc géant en Ouganda et en Tanzanie porté par Total Energy. Plus connu sous le nom de EACOP, il est destiné à transporter du pétrole brut à partir de nouveaux puits ougandais vers le port de Tanga en Tanzanie. Sa construction menace le climat, la biodiversité et les droits humains. De nombreux acteurs se sont mobilisés afin de contester ce projet. C'est notamment le cas des Amis de la Terre, association de protection de l'homme et de l'environnement. L'association a participé à ce webinaire par la voix de Marcelin Géel, chargé de plaidoyer et consciencieux. Selon lui, la lutte contre la construction de l'éoduc doit concerner le plus d'acteurs possible.
Il est très important que la société dans son ensemble se mobilise et à ce qu'on classe, ce que fait Laudato Si et ce que font d'autres organisations chrétiennes est primordial. Sachant que les chrétiens sont également particulièrement concernés par ces projets sur place. Nous avons des leaders de foi qui sont menacés. Nous avons des sépultures et des lieux de culte qui sont sur le tracé de l'oléoduc et qui vont être amenés à être détruits. Sachant qu'il y a eu des prises de position qui sont très importantes de la part d'autorités religieuses locales, mais aussi du Vatican en 2020 qui a appelé à l'arrêt de ces nouveaux projets fossiles en général. Donc il est vraiment très important de voir que tout le monde se saisit de ça, et à ce compte-là, le fait que les chrétiens, qui représentent une part importante de la population en Afrique, dans l'Est de l'Afrique, mais aussi en France, se mobilisent, c'est très précieux.
Concluons cette rubrique avec l'Église colombienne, qui célèbre du 28 mai au 4 juin la 55e semaine de prière pour l'unité des chrétiens sous le thème « Faire le bien, chercher la justice ». La semaine comportera un certain nombre d'activités, parmi lesquelles des visites aux communautés de foi des églises chrétiennes historiques qui composent le comité œcuménique, où des réflexions seront menées autour de la parole de Dieu. Un autre point central des activités est la célébration œcuménique qui aura lieu le samedi 3 juin. Les dirigeants des églises chrétiennes et les fidèles de différentes communautés de foi y sont invités. Cette célébration se déroulera dans la communauté Saint-Mathieu de l'église luthérienne allemande à Bogota.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
À mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. À très bientôt. Yeah.